I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace le parcours de mes invités depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie j'aime ouvrir des portes et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des portes sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interview, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous. Je suis heureux grâce à Histoire de succès de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas et de leur donner l'opportunité de parler de sujets qu'ils ou elles n'ont jamais abordés dans un micro en me racontant leur vie, leurs réussites, leurs échecs et les carrefours qui ont composé leur existence. Cette semaine, je reçois Alizée Lim qui est joueuse de tennis pro et qui a sorti dernièrement un bouquin intitulé « Éloge de l'inconditionnel » dans lequel elle retrace à la fois son parcours de tenniswoman mais aussi sa petite particularité à elle puisqu'elle est diagnostiquée zèbre, HPI, surdouée, enfin appelez ça comme vous voulez. Elle raconte dans cette interview son enfance animée par des roller coasters émotionnels de joie, de colère. Elle explique à quel point l'empathie a été un frein pour elle dans ses débuts dans le tennis. Et elle nous partage aussi le quotidien d'une joueuse de tennis pro, cet apprentissage d'un échec hebdomadaire quasi systématique, l'addiction au classement WTA où tu gagnes et tu perds des points et des places toutes les semaines, et l'économie qui existe derrière cette carrière. On parle aussi de son éducation, de ses parents qui sont très encourageants, parfois trop doux avec elle face à la défaite comparée à certaines autres joueuses de son âge, et elle se demande comment elle fera, elle, avec ses propres enfants, un énième puzzle à résoudre pour elle, qui a aujourd'hui du mal à se canaliser sur le tennis alors qu'elle a 30 ans et qui s'est lancée dans plusieurs autres carrières. Vous l'entendrez en parler, vous verrez, c'est génial. Merci beaucoup à Alizée pour son temps et pour sa confiance. J'espère que vous serez séduits par son naturel que j'ai pour ma part adoré. Je vous souhaite une bonne écoute. On est avec Alizée Lim, donc salut.
Salut.
Ça va?
Très bien, et toi?
Très très bien, ouais. Merci beaucoup Alizée d'être là.
Bah, mais merci à toi, je suis contente.
Question à te poser. T'as sorti un bouquin là aux éditions Vuibert il y a quelques semaines qui s'appelle Éloge de l'inconditionnel, qui est vraiment...
Pourquoi faire ce geste tout de suite? Grandiloquent.
Mais c'est grandiloquent comme titre en fait.
Alors je vais te faire une confidence. Ouais. Mon titre de cœur, je sais pas si je devrais le dire, c'était Épopée de l'inconditionnel et on m'a dit que c'était trop grandiloquent justement. Ah. Alors essaye d'avoir le curseur un petit peu en dessous, okay. Et là je te vois faire ce geste pour éloge, je me dis oh là là, heureusement que je n'ai pas dit épopée.
Mais c'est bien en même temps, mais en plus c'est marrant que tu le prennes sur la défensive parce que pour
non,
moi je trouve que
je
c'est
rigole,
cool.
Ça
fit très bien avec ton histoire en
bah,
fait.
Tant mieux, tant
assez
mieux.
Intense.
Non, à vrai dire, je le prends ni sur la défensive ni dans rien du tout. Je sais que c'est très personnel et que un titre ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon.
Ça,
et,
c'est sûr.
Et tant qu'il me plaisait à moi, c'était l'essentiel.
C'est important. tu y racontes ton histoire en fait. Le sous-titre exact, je l'ai plus en tête, mais c'est histoire d'une zèbre sur un cours, c'est ça?
Témoignage d'une zèbre sur le cours.
Très bien. J'ai taffé à moitié quoi. où bah effectivement tu racontes ton alors dans ce podcast on a déjà fait plusieurs contenus sur tout l'aspect zèbre, HPI, surdoué, appelez-le comme vous voulez. Je vous mettrai les liens. On a notamment interviewé une personne qu'on a en commun. Je savais même pas qu'on l'avait en commun en fait, qui est notre psy, je crois.
Oui, tout à fait. Mais j'avais écouté ce podcast d'ailleurs avant même de te connaître.
Ouais. Oui. Où j'interviewe Jeanne Sauvachin, donc qui en plus tu lui as demandé de faire la préface de ton bouquin.
Oui, c'était une suite logique de l'histoire de l'écriture de ce livre et il n'y avait personne d'autre qui pouvait la préfacer, c'était elle ou rien.
Ok. tu racontes dedans effectivement ton histoire depuis que t'es toute petite jusqu'à on va dire 2016-2017.
Exactement.
Ton histoire de, bah, d'abord de gamine, HPI, au sein de l'école, au sein de la famille, qui découvre ce sport qui est le tennis, dans lequel tu vas t'engouffrer, alors avec plus ou moins de bonheur. C'est marrant parce qu'il y a, t'as tout un parcours aussi qui est assez atypique, je crois, par rapport à d'autres sportives ou sportifs professionnels qui ont tendance à aller vers une voie toute tracée. Toi, on sent bien que tu t'es cherché un peu pendant longtemps. Mais on va reparler de tout ça. Et en fait, aujourd'hui, alors je sais même pas si on peut dire que t'es encore joueuse de tennis professionnelle ou pas. T'es un peu entre les deux. Comment ça se passe?
Bah, c'est un peu une caractéristique d'HP, non? D'être entre deux, entre tout, entre rien, d'être partout et nulle part à la fois. Donc ici, je peux le dire, j'ai envie de me dire toujours joueuse de tennis parce que je m'entraîne toujours, parce que c'est toujours une passion que je ressens, que j'ai encore envie de jouer des matchs, mais c'est juste que je ne lui donne plus forcément la priorité numéro une au point de ne plus avoir le temps de faire autre chose et de voyager 40 semaines par an et de devoir tout mettre entre parenthèses pour ce sport.
Ok. Tu t'expliques aussi... La première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait à quoi tu ressemblais à Lisée quand tu avais 7-8 ans. Alors tu donnes quelques bribes dans le bouquin, mais j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu.
Ouh. C'est vrai, mais en fait c'est marrant parce que là du coup je me revois en train d'écouter le podcast de Jeanne et Jeanne répond à cette question et ce que j'ai pensé quand j'ai entendu ça et le film que je me suis fait d'elle quand elle avait 7-8 ans. Bref. Et donc moi quand j'avais 7-8 ans, je me souviens surtout de l'école. Je me souviens que je bavardais tout le temps en classe, que j'avais une super copine et qu'on s'écrivait tout le temps des lettres non-stop et que... on va dire que je bouffais la vie à pleines dents quand même, que c'était une fin de vie immense, envie de faire beaucoup de choses, de toucher à tout, de faire plein d'activités, beaucoup d'énergie et des grosses crises émotionnelles, des colères, des détester ma maman pour une petite phrase qu'elle aurait laissé glisser, que j'aurais prise de travers. Voilà, c'est surtout ça que je me rappelle.
Et puis t'as aussi... un truc dont tu parles très régulièrement, c'est dans le bouquin en tout cas au début, c'est un peu la rivalité aussi avec ton frangin et surtout ton frangin d'ailleurs et ta sœur aussi quelque part, non?
Ma sœur non, pas du tout.
Pas
ma sœur, on va dire, elle avait vraiment le rôle de grande sœur où je l'admirais, mais à la fois j'étais consciente qu'elle était trop différente de moi. Mais c'était rigolo. Enfin, j'adore faire ça, j'adore admirer les gens d'une manière générale, surtout ceux qui sont très éloignés de moi. Mon frère, on va dire, la rivalité, elle était très saine. J'ai beaucoup joué là-dessus pour l'écriture, pour faire rire, peut-être sourire les gens. C'était très sain et c'est vrai que j'avais l'image du grand frère qui sait tout faire et que moi j'avais l'impression d'être plus acharnée et qu'il avait réponse à tout et que je pouvais m'appliquer à essayer de faire comme lui dans toutes les choses qu'on essayait alors que lui était très calme, très posé. Et je pense que j'ai pris beaucoup de place aussi par ces différences de caractère.
Vous aviez quel âge de différence? Combien d'années de différence?
On avait à peine un an de différence, donc c'est pour ça les gens nous prenaient pour des jumeaux. Mais voilà, c'est-à-dire que j'ai raconté ça, mais il a commencé les tournois de tennis en même temps que moi, et je me rappelle de... D'ailleurs, je suis contente qu'il ait arrêté, parce que j'ai les larmes qui montent rien que d'y penser, c'est dingue.
Pourquoi?
Parce que j'aurais pas supporté de vivre ça de l'extérieur pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que s'il y avait une injustice qui aurait été faite contre lui, et ça a été le cas d'ailleurs quand on était petit, je devenais folle, j'allais appeler le juge arbitre, si quelqu'un triche ou si quelqu'un le maltraite sur le court, ça me rendait malade. Et puis surtout, mon frère avait pour le coup du mal à gérer ses émotions sur le court, il s'énervait, et ma mère voulait le sortir du terrain s'il jetait sa raquette. Et voilà, c'est dingue. J'ai un coup d'émotion là. Et effectivement, je l'aurais pas supporté. Voilà, donc je préfère moi-même me mettre.
C'est toi qui te mettais dans des états pas
voilà,
possibles.
Voilà, mais que d'observer mes proches le faire.
Ok. En plus, t'as choisi vraiment le sport où j'ai l'impression qu'il faut montrer le moins d'émotions possible.
C'est
très mal vu de jeter sa raquette, d'avoir des coups de colère. Bah, McEnroe, enfin, moi je me souviens de McEnroe. Je sais pas trop aujourd'hui, parce que je t'avoue,
Non, il y a des amendes. C'est-à-dire que tu prends un avertissement et une amende. Donc si tu casses une raquette, si tu es sur le central de Roland-Garros, tu peux avoir 10 000 dollars d'amende. Alors que si tu es sur un petit tournoi, tu vas avoir 1 000. Mais bon, ça fait quand même mal. Et donc, c'est un règlement, en fait. On n'a pas le droit de jeter sa raquette.
Et donc, t'as pas le droit non plus de... Enfin, c'est très
mal vu. De crier, c'est pareil. De lancer une balle, il y a des amendes.
D'aller contester l'arbitre de
voilà,
trop, etc.
Voilà, il y a des degrés d'amende pour tout débordement. Mais c'est pas qu'une question de règles. C'est-à-dire que aussi, on t'apprend ça parce que... c'est un peu poker face, c'est-à-dire que si tu commences à jeter ta raquette dans un moment chaud, bah, tu vas donner de la force à l'autre. Et de la même façon que tu vas avoir tu la fille va rien montrer et là d'un coup ah tu la vois s'énerver alors qu'à un moment chaud tu dis ah ouais elle est pas si sereine que ça et là ça peut te redonner la force et ça peut jouer dans les détails dans les moments importants.
C'est un sport ultra mental pour le coup. Alors certes très physique parce que c'est des matchs longs en général, mais c'est très mental aussi. Tu le racontes d'ailleurs dans le premier chapitre du bouquin.
Dans le premier set,
j'allais dire. Mais tu racontes dans le premier chapitre justement ton histoire, comment tu vis de l'intérieur ce match qui est en plus important pour toi parce que c'est une place qualificative pour Roland Garros à ce moment-là. Mm-hmm. Et tu racontes en détail à quel point le bruit du drapeau qui fait glang glang contre le poteau te rend zinzin au bout d'un moment parce que tu focuses plus que là-dessus quoi.
Mais je sais pas à quel point la peur exacerbe ce genre de cette trop forte dans ces moments-là. Après oui j'avais à cœur de montrer ce qui se passait dans ma tête parce que c'était un problème quotidien, que ça soit le bruit, que ça soit quelqu'un qui passe dans, même pas dans mon champ de vision parce que je vais être en train de jouer donc je vais regarder devant moi, mais s'il y a une personne qui arrive sur le côté je vais la voir et je vais me demander qui c'est et peut-être mon esprit va s'évader et donc voilà s'écarter voilà de ce que je suis en train de faire. Et j'ai envie de dire, parfois ça vient d'un élément extérieur et parfois pas du tout. Parfois il se passe rien et il n'y a pas spécialement de bruit, mais ça va être tout simplement le bouton de l'arborescence des pensées qui va s'installer, qui va décider d'aller faire un petit détour par-ci par-là il y a 4 ans quand j'ai vu telle personne et commencer à faire des analyses. Donc c'est vrai que c'est hyper frustrant et c'est incontrôlable.
Quand tu parles d'arborescence des pensées, c'est l'une des caractéristiques des arbres, justement, HPI, enfin, appelez-le comme vous voulez, où à partir d'un truc, tu peux aller très très vite, comme tu dis, à partir d'un moment présent pour aller repenser à un souvenir d'il y a 4 ans, parce que ça te rappelle à un moment donné une odeur ou tu vois, je sais pas.
Exactement, et du passer du coq à l'âne comme ça, et Jeanne dit un petit singe qui saute de branche en branche comme ça, et en fait, sans même s'en rendre compte, parce que c'est complètement inconscient, et je pense que même quand je fais la vaisselle ou quand je fais autre chose, maintenant je le remarque parce que du coup j'ai une deuxième couche qui m'analyse en train de faire ça.
C'est long.
Mais effectivement, dans la vie de tous les jours, je vais pas m'en rendre compte de par où je suis passée pour juste faire ce trajet en voiture de 10 minutes et là où je me suis évadée et ce que j'ai été amenée à analyser. Mais dans un match, c'est horrible parce que pendant ce temps-là, les jeux défilent.
Et pendant ce temps-là, tu peux finir par perdre le match juste parce que tu as perdu le fil à un moment donné de...
Oui, c'est ça. Alors même si c'est pas au moment de perdre, c'est-à-dire à la fin du match, ça va souvent arriver au milieu parce que peut-être dans un moment d'ennui, dans un moment de décrochage, et ça va jouer parce que la situation se retourne tellement vite au tennis et c'est une petite porte ouverte à l'adversaire va pouvoir renverser le score. Voilà. Donc même si c'est 20 minutes au milieu, ou 5 minutes, ça peut être fatal.
Ça peut t'amener à perdre. Il y a un autre truc aussi dont tu parles, c'est que quand tu débutes le tennis, alors tu y vas de façon assez naturelle parce que tes parents jouent au tennis et donc à un moment donné tu décides d'y aller, tu commences à faire tes premiers tournois et tu montres une empathie folle pour la fille en face de toi que t'es en train de battre.
Oui, c'est ça, je me rappelle, ma mère était furieuse parce que cette fille pleurait, elle s'appelait Margot, je me rappelle, elle pleurait et j'avais tellement de peine pour elle et je me disais, la pauvre, il faut que je lui remonte le moral, donc je suis allée m'asseoir sur son banc pour lui parler, ça va. Et en fait, je me suis fait remonter. Mais ça a été une bonne leçon. Parce que, on va dire que petit à petit, je me suis forgé un caractère où j'ai complètement éteint cette partie-là de moi. Et ça peut pas m'arriver aujourd'hui. C'est impossible que je vois la fille pleurer et que j'aille m'asseoir sur son banc. Donc il y a des choses qui s'apprennent. Je sais pas si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens.
Ouais, c'est ça, j'allais dire.
Mais il y a des choses qui évoluent en tout cas. Et ça a été mon cas.
Et t'as l'impression que. Enfin, je sais pas. De ce fait-là, j'ai un peu l'impression aussi que tu te renies, en fait, quand tu fais ça. C'est-à-dire que peut-être que le vrai toi, c'est la gamine de 8-10 ans qui va reconsoler cette fille et qu'aujourd'hui, il a Alizée de 30 ans qui dit « Non, toi, je vais juste... C'est très bien, t'es en train de perdre, va donc mourir, tu vois. »
Montre-moi que tu pleures comme ça, je vais prendre de la force de toi, comme c'est cruel. Mais c'est bon, c'est la réalité du sport en compétition. Et je veux dire, j'adore la compétition aussi, donc c'est un peu double face. Donc, mais je pense que c'est aussi dans ma nature d'aimer la compétition. Donc, je saurais pas te dire, je sais pas quelle est la vérité absolue, mais c'est ok pour moi d'avoir de l'empathie en dehors du cours ou en sortant du cours et de comprendre que quand on est sur le cours, eh bien, voilà, le jeu c'est ça. Et j'ai aussi investi tellement d'énergie et d'argent et d'efforts et tous les ans se sont investis avec moi aussi pour avoir juste envie de gagner ce match pour satisfaire tout le monde, parce qu'après il y a de l'empathie envers d'autres personnes, c'est-à-dire que si jamais je fais pas bien mon travail, je peux aussi me culpabiliser de des attentes des proches et voilà, donc l'empathie elle peut se détourner vers d'autres personnes.
Comment tu l'as aiguisé, ou comment il est né chez toi cet esprit de compète quand t'es petite?
Je sais pas, sincèrement. Je pense que on l'a ou on l'a pas dans le sang, voilà.
Ah ouais,
après, et je pense aussi le fait d'avoir des frères et sœurs. C'est pour ça que je m'amuse un peu à dire ça dans mon livre, parce que c'était peut-être mon premier esprit de compétition. Ça a été avec mon frère parce que j'étais très proche de lui. Mais sinon, voilà. Après, ça grandit avec les objectifs de vie et cette soif de réussir dans le tennis.
Tu l'expliques pendant le, justement, tu l'expliques dans ton bouquin, c'est que pendant très longtemps. Tu dis un truc, tu dis que tu veux vraiment séparer tes deux vies, parce que t'es encore au lycée, tu commences à devenir, à faire partie des meilleures joueuses françaises dans ta catégorie d'âge, etc. Mais tu veux pas les mélanger.
Non, c'est vraiment, j'ai un peu ce sentiment d'un double décalage parfois entre le côté haut potentiel et le côté tennis. Et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que tout ce que j'ai eu au tennis doit rester dans la vie de tennis, et j'ai l'impression que les gens pourraient pas comprendre, et j'ai pas envie de perdre d'énergie à expliquer parfois, parce que et c'est des discours qu'on a entre nous, entre joueuses. C'est-à-dire que bon, tu leur fais quoi comme réponse toute faite dans les dîners quand on te pose telle question, parce qu'on sait qu'on pourrait dire tous les mots de la terre. Ce serait, si c'est pas vécu de l'intérieur, c'est trop compliqué à expliquer tout ce qu'on a vécu. Je parle de tennis là.
Tu parles vraiment de l'aspect de la vie de.
Tu vois, t'aurais pu croire que je parlais de haut potentiel.
Non, pas du tout. Non. Je te posais la question, c'est tout.
Non, je parle de la vie de joueuse de tennis, de ce que c'est, de ressentir, de vivre ce quotidien, de ressentir ce qu'on a ressenti sur le court, les déceptions, les joies, les victoires, tout ça. Et à l'époque, je pense que naturellement, il y avait déjà un petit peu de ça, et après, c'est peut-être ce côté un peu. Caméléon, je prends un peu ce qu'il y a à apprendre de chaque côté, et puis j'ai pas envie de reparler de tennis au moment où j'arrive à l'école, parce que là il y a d'autres choses à prendre et on va parler d'autres choses, donc c'est plus enrichissant pour moi de prendre le côté école, et après au tennis de prendre le côté tennis, et de me nourrir de toutes ces différentes choses dans la vie.
Pourtant ça faisait partie de ta vie, quoi, tu vois, en tant que lycéenne même.
Bah oui, mais bizarrement, en fait, j'aimais même pas quand ils en parlaient, quand ils disaient « joueuse de tennis hein, », des trucs comme ça au lycée, ou « elle est pas là, elle est à Roland », je suis là... Tu sais, en fait, c'est une façon de s'adapter, tout simplement, aussi. C'est-à-dire que j'ai envie d'être comme tout le monde, et j'ai pas envie de dire que j'ai une autre vie. J'ai envie, comme vous, de... Voilà, c'était une vie parallèle que j'ai pas envie de partager, parce que je veux être comme tout le monde.
C'est un truc qui t'est venu naturellement, ou que t'as fini par mettre des digues, en fait, avec l'expérience? Tu sais,
non, naturellement. Ouais. Naturellement. Ouais.
Ça m'étonne. Enfin, c'est étonnant.
Oui, parce que je pense que quand je reviens de tournoi, j'ai envie de passer à autre chose. Je partais en tournoi, je vivais mon tournoi, hop, je reviens à l'école, et c'est deux mondes tellement différents, avec des mentalités différentes, et puis c'était des âges différents. Parce qu'au tennis, globalement, j'étais avec des filles plus jeunes que moi, ou de mon âge, et après, ils étaient un peu plus âgés à l'école. Alors, quand on grandit, évidemment, il n'y a plus de différence. 22, 25 ans, ouais. 26, 28, c'est pareil. Mais à l'école, peut-être le fossé est un peu plus grand.
T'avais sauté deux classes, c'est ça?
Ouais, j'avais sauté deux classes. Donc oui, par exemple, en sixième, j'avais 9 ans, ils avaient 11 ans, et puis j'étais avec des filles de 8 ans. Enfin, bon, pour le coup, j'ai commencé plus tard, donc c'est pas un bon calcul. Mais oui, je me rappelle que, par exemple, la fille dont je parle, dans mon livre, que je bats et qui s'enferme dans les toilettes, elle avait un an de moins que moi.
Ok.
Donc voilà.
Et c'est de ce fait-là, tu préférais vraiment garder les deux, quoi.
Oui, ou peut-être tout simplement, les mentalités étaient tellement différentes que je pense que je m'adaptais et que je faisais personnalité 1, personnalité 2 naturellement. Et voilà, ça faisait un équilibre.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer.
Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. C'est marrant parce que j'ai un peu l'impression que tes parents t'ont à la fois beaucoup aidé dans ta carrière de tenniswoman et en même temps le fait qu'ils aient pas été dans le game du sport professionnel, ça t'a aussi pas mal handicapé parce que c'est un peu comme tu sais ces enfants d'ouvriers, tu vois, qui savent pas vraiment que les filières que t'as pu faire par exemple genre les grandes écoles etc, que ces filières là peuvent exister, tu finis par te retrouver sur des voies de garage en fait où tu gères un peu ton truc un peu comme tu veux, un peu comme tu peux aussi. C'est comment tu le relis aujourd'hui ce parcours par rapport à ce début de carrière là.
Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'était une grande chance parce que c'est incroyable que tes parents te laissent quand t'es ado te donner cette liberté et cette confiance tout simplement. On sait ce que tu fais et on te fait confiance et tu peux aller voyager et faire. On sait que t'es mature, on sait que tu vas pas faire des conneries.
C'est parce que tu voyageais toute seule.
Ouais, quand j'avais 18 ans, j'ai fêté mes 18 ans, je suis partie avec ma meilleure amie, je le raconte dans le livre, je suis partie en voyage toute seule au Maroc pour jouer mes premiers tournois à l'étranger. Donc à partir de là, oui, je voyageais toute seule. 18, 19 ans, j'allais faire des tournois à droite à gauche, voilà, après je me faisais des copines, et j'étais en mode survival, quoi, pour pas me sentir trop seule. Donc c'était une marque de grande confiance et ça m'a permis de pouvoir me construire librement, de faire mes expérimentations, de jamais me sentir enfermée. Donc c'est une grande chance. Après oui, il y a eu des moments où j'étais tellement embringuée dans cette folie de vouloir à tout prix réussir le classement, gagner tout ça, que j'observais une différence, je la sentais, je la voyais et je me disais oh là là. Et puis si moi aussi j'avais pu avoir des parents comme ça qui m'avaient foutu des claques depuis que j'étais petite, peut-être ma mentalité serait différente, peut-être que j'aurais moins peur, peut-être que je respecterais moins les autres, peut-être que quand il y a 5 partout au 3e, je me dirais pas oh là là, je vais peut-être battre cette fille. Pas forcément que je me disais ça, mais c'est pour caricaturer. Et peut-être qu'à ce moment-là, je me dirais mais c'est impossible que je perde contre cette fille, je vais l'écraser puisque je suis censée devenir une grande grande championne. Et ces choses-là, ces détails-là qui se retrouvent dans l'éducation et dans la façon dont tu te construis quand tu es enfant, peuvent jouer un rôle important dans des moments importants du tennis.
Au très très haut niveau, quoi.
Voilà, et j'en suis devenue consciente. Donc effectivement, c'était une frustration pour moi d'enlever cette bienveillance qu'avaient mes parents, à être fiers de moi tout le temps. Ah, t'es à Roland-Garros, c'est pas grave si tu perds parce que t'es notre fille et qu'on est trop fiers de toi que tu sois là, alors que j'observais chez les autres, non, si tu perds au premier tour à Roland-Garros, tu tu vas te prendre les foudres de tes parents. Donc je sais aussi que ces choses-là, se prendre les foudres de ses parents, pouvaient porter. J'ai vu des filles se faire porter par ces exigences parentales-là. Et quelque part, je regrettais que ça soit pas un booster pour moi. Mais c'est complètement absurde. Enfin, voilà, avec le recul et la maturité, la sagesse. Je sais être reconnaissante de ça aujourd'hui et me rendre compte que, voilà, j'avais des œillères et je préfère largement avoir des parents qui veulent mon bien et qui sont fiers de moi et qui restent un petit peu éloignés de cette folie compétitive que l'inverse.
Ok. En regardant ton parcours avec le recul aujourd'hui, tu te dirais ça, quoi?
Ouais, je me dirais ça. Après, tu vois, là, j'ai dit ça, mais comment je ferais avec mes enfants? Est-ce que...
Ouais, tu vois, j'allais te poser la question.
Tu vois, je désire.
Je sais pas si t'en veux.
Mais... oui, j'en veux, mais je sais pas, tu vois. Je sais pas, je pense qu'il faudrait que je trouve un juste milieu, mais je ne serais pas comme mes parents, ça c'est sûr. Je pourrais pas dire, oh là là, elle a l'air... elle était trop mignonne, ma maman.
Coucou maman.
Elle disait oh là là, elle a l'air costaud parce que j'étais assez fine par rapport aux autres et puis du coup il y avait une notion de rentrer sur un ring de boxe. Et ma pauvre fille, c'est inconsciemment, elle envoie déjà des ondes. Tu vas peut-être
perdre.
Parce que cette fille est très très costaud par rapport à toi. Mais c'est inconscient, je lui en veux pas évidemment. Elle a pas été élevée comme ça, et tant mieux. Mais c'est clair que je tiendrai pas des discours comme ça à mes enfants et je pense que. Oh, peut-être que je partirais moi aussi, peut-être dans ces extrêmes. Évidemment, je ne battrai pas mes enfants et je ne les frapperai pas, mais.
Non, mais en tout cas,
je sais pas, on sait pas, on peut pas savoir à l'avance, n'est-ce pas?
Non. Et puis surtout, c'est compliqué. Hein.
Mais c'est une question qui se pose, je pense que je serais.
Parce qu'en plus, t'as ton enfant en face de toi après qui réagit, tu vois. C'est-à-dire que si tu commences à pousser ton môme à devenir un immense ou une immense championne, tu vois. Après, il réagit.
Je donnerais de l'importance à la mentalité de la gagne. Et de ne pas avoir de limites, surtout pas d'obstacles, pas de limites. Tu peux vraiment battre tout le monde et ne pense pas qu'il faut respecter tout le monde. Tu as ta place, quoi que tu choisisses. Et à la fois, je pense qu'il faudrait aussi que je laisse cette liberté qu'on m'a laissée quand j'étais petite pour me construire de la façon dont j'ai envie.
C'est super dur à faire.
C'est très utopique, mais voilà.
L'équilibre, je crois qu'il est vraiment, c'est très, très compliqué à faire. Il y a autre chose aussi qui m'a marqué dans ton bouquin aussi, c'est ta nécessité à un moment donné d'être aimé par d'abord tes institutrices à l'école, enfin tes profs des écoles, puis après tes entraîneurs. D'ailleurs, tu changes beaucoup d'entraîneurs et je crois que c'est à chaque fois un peu, enfin, je le sens à chaque fois un peu comme une déchirure et limite une rupture, quoi, tu vois. Et puis c'est normal, ça fait partie du jeu. Est-ce que tu peux, tu sais un peu d'où ça vient, toi? Pourquoi t'as besoin à un moment donné d'être aimé par, je sais pas, une autorité?
Je pense pas que ce soit d'être aimé parce que j'ai besoin d'amour et que j'ai besoin d'être aimé.
Besoin d'amour, sérieux.
Mais je pense pas que ça vienne de là. Je pense que c'est parce que moi, je me mets à aimer les gens et que c'est une déchirure si c'est pas réciproque. Et de me dire, je suis allée trop loin dans mon inconditionnel et dans ma façon de vivre les relations humaines et qu'après, se rendre compte que c'est pas réciproque ou que les gens vont avoir plus de bémols ou plus dans le gris que toi, c'est difficile à vivre. Voilà, mais je suis bien contente que tu aies vu le parallèle entre les enseignants et les coachs.
Bah,
dans,
y en a.
Dans l'enfance et dans...
Et puis c'est pareil avec tes amis aussi, parce que tu parles d'amitié, tu parles un peu plus tard de tes premières histoires d'amour aussi, où t'as un truc très... T'as besoin que ce soit un peu d'artifice, quoi.
Exactement. Je pense que c'est ce côté au potentiel, à être un petit peu trop, ressentir trop, vouloir tout, vouloir dans les extrêmes, et qui est difficile. Et c'est difficile de s'accorder avec les autres dans des situations comme ça. Et c'est pareil dans tout, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Parce que finalement, c'est ce que j'ai analysé de moi et c'est pour ça que je l'ai mis à la fin de l'introduction. C'est qu'en fait, finalement, j'ai besoin d'inconditionnel dans tout. Mais j'essaye de. Je sais pas si c'est bien, c'est comme l'empathie, mais j'essaye de grandir en me disant, me faisant du bourrage de crâne, ça ne peut pas être comme ça, ça ne peut pas. C'est pas parce que ça n'est pas comme ça qu'il faut que tu considères que cette relation n'a pas sa place dans ta vie. Que chacun est différent et qu'il ne faut pas que j'attende la même chose, pas que je m'enflamme trop vite.
T'as des déceptions amicales aussi avec tes potes qui ne sont pas aussi zinzin que toi. Zinzin,
bon sens. Je t'en remercie. Eh bien,
c'est très amélioratif chez moi, zinzin en même temps, tu sais.
C'est ça, c'est-à-dire qu'un tout petit truc, alors on en revient sur... C'est pour ça que je l'ai partagé, parce que je voulais aussi exposer des caractéristiques, je ne sais même pas si on peut enlever ce mot pour les zèbres. Et c'est vrai qu'une toute petite chose pouvait déclencher une énorme déception et me faire couper court, parce que voilà, comme le dit si bien Jeanne, une broutille peut déclencher un cataclysme émotionnel. Et la confiance est perdue comme ça, et c'est une déchirure, et c'est impossible de revenir dessus. Et si les autres ne le comprennent pas de la même façon que toi, t'as l'impression de passer pour une folle. Donc, je pense que c'était un mécanisme de protection pour moi de couper court dans ces moments-là.
Et tu coupes court, et pour revenir un petit peu à, notamment, t'as un coach qui décide.
Alors là, sur les coachs, c'est pas moi qui ai coupé court, parce que en grandissant, voilà. Non, c'est le métier qui veut ça.
C'est ça, j'allais te demander. C'est un truc qui arrive très régulièrement, c'est
oui,
ça,
c'est vraiment la WTA. La WTA, c'est World Tennis Association. C'est une plaque tournante. C'est-à-dire que voilà, tu vas partager ta vie avec un coach H24, petit-déj, dîner, voyager partout avec cette personne, avoir des galères de vie avec cette personne, partager des émotions hyper intenses avec cette personne, la regarder, serrer le poing dans les yeux, te faire porter par cette personne pour aller vers la victoire. Et en fait, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter pour raison financière, pour raison voyage, on habite trop loin, j'ai envie d'entraîner telle personne, ou tout simplement, on ne s'entend pas en dehors du cours et ça devient difficile à vivre, n'importe quoi. Et se retrouver une semaine après contre cette personne, c'est-à-dire qu'elle peut coacher ton adversaire. Et là, moi, ça, c'est des choses qui me traumatisent un peu, parce que je me dis, oh, cette personne est rentrée tellement loin dans moi et dans ce que je suis, et là, d'un coup, il faut qu'elle switch et qu'elle soit contre moi, et que là, elle a tellement espéré ma victoire, et maintenant, elle doit espérer ma défaite, puisqu'elle coache mon adversaire. Et moi, ça, c'est des trucs qui étaient très difficiles à vivre.
Comment tu faisais, alors?
Pas le choix, c'est comme ça, on s'adapte. Non, je montrais rien, mais avant de sortir ce livre, je pense que personne n'a jamais pensé qu'il y avait le moindre problème pour moi à ce niveau-là.
Sérieux?
Moi, on montre.
Même pour le coach, si forcément il devait
lequel
le savoir.
Lequel?
Je sais pas, ton coach.
Moi je disais rien. Moi je.
Ah, toi, tu étais là.
Moi je.
L'air de rien.
Non, j'essaie de m'endurcir en fait. J'essaie de m'endurcir, donc j'ai accepté, je souffre au fond de moi, mais je. C'est-à-dire que j'avais tellement aussi cette volonté de réussir dans le tennis que je savais qu'il fallait passer par là, il fallait accepter ça, il fallait, c'est pas grave, il va te falloir quelqu'un d'autre. Alors, en fait, il fallait que je devienne très cartésienne et robotisée. Ok, donc là, je veux toujours progresser, mon objectif c'est toujours ça, comment je fais? Il va me falloir un coach, je peux pas y arriver tout seul, bon bah il va me falloir que je prenne un autre coach, j'ai pas le choix. Et voilà, de façon méthodique finalement.
Et c'est un peu le cas des meilleures joueuses aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment dans ce mode robot, comme tu dis?
Je pense que meilleure joueuse ou moins bien classée joueuse, je parle en anglais, reviens au présent, pardon. Le sentiment de solitude peut être aussi immense et cette difficulté aussi de s'accompagner de quelqu'un, de la bonne personne, de la vivre au quotidien, c'est tout aussi difficile. Voilà. Après, la seule différence peut-être, c'est que je pense que les joueuses dans le top 10, elles vont peut-être moins dîner avec leur coach. Parce que plus d'argent, donc plus de staff, donc plus grands tournois, plus grands hôtels, et donc chacun va peut-être un peu plus faire sa vie, alors que parce que tu te sens encadré, globalement, tu n'es pas perdu avec toi-même. Alors que si tu vas dans un petit tournoi en Inde, au fin fond d'eux, avec la personne, forcément, tu vas te dire, bon, allez dîner ensemble. Enfin, personne ne va aller dîner séparément. Alors que si tu es à Paris, à Melbourne, à New York, tout le monde a des amis. Ton coach, il a des amis. Toi, tu as des amis. Donc, vous pouvez vous séparer. Voilà.
Ok. C'est un peu un... Mais d'ailleurs, tu l'expliques très bien. Je crois qu'il y a un peu un aspect de cercle vicieux ou un aspect de cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la gagne finit par permettre de pouvoir gagner plus et de pouvoir avoir peut-être plus de moyens, etc. Tu le racontes aussi très bien. Et ça, je ne le savais pas. C'est que c'est toi qui payes tout de ta poche.
Tout de ta poche, effectivement. Tu payes ton coach, le salaire de ton coach, tes voyages, les voyages de ton coach, ton cordage. Enfin, quand je dis ton cordage, t'as des sponsors qui te donnent du cordage, mais tes poses de cordage, tous les frais qui sont liés à pouvoir... Je veux marquer des points, je veux être bien classée au tennis, donc je veux marquer des points, donc je dois aller en tournoi, parce que le classement se fait sur chaque semaine de l'année, c'est une addition de tous les points qui sont marqués au fil de l'année, donc je dois aller jouer chaque semaine, donc je dois dépenser tant d'argent si je veux pouvoir être dans le classement mondial.
Et donc c'est...
Et ça, c'était une des choses très importantes pour moi de partager. Et c'est à la base pour ça que je voulais écrire ce livre. C'était pour partager le tennis et la violence de ce système. Et finalement, je suis partie dans autre chose. comme quoi, il y a peut-être des choses qui doivent sortir de soi sans qu'on s'en rende compte.
C'est vrai qu'à la base, tu voulais vraiment faire un bouquin juste spécifique au tennis.
Pas juste spécifique pour le tennis, mais mon motif pour commencer à écrire, c'était ça. C'était je vais... Peut-être arrivé à la fin de ma carrière, j'ai envie de partager ce que j'ai observé et ce que j'ai vécu. Et j'en ai marre qu'à chaque fois que je parle à des gens, ou même des athlètes, me regarde avec des yeux « Ah bon, mais vous payez tout, mais comment c'est dingue, mais c'est fou ce sport, etc. » Et je me disais « Mais il faut le dire, il faut parler. » Et finalement, oui, j'ai commencé à écrire et j'écris sur mon enfance. Tu vois.
Mais comment, de cette là, c'est quoi le modèle économique, entre guillemets, t'as des sponsors, c'est ça, qui te...
Non, t'as des sponsors que quand t'es bien classé, donc c'est le fameux cercle vicieux-vertueux dont tu parlais tout à l'heure. Non, alors si tu commences très jeune, tu peux être accompagné par la Fédération Française de Tennis ou une autre fédération, ou par un mécène et avoir des sponsors. Mais si tu commences très jeune et tu es très vite, très tôt, fort, c'est-à-dire que voilà, mais il y en a très peu. Après, sinon, les parents, trouver un mécène, mais c'est très dur en France, voilà, c'est de la débrouille en fait.
Et donc, j'imagine que chaque sou que tu gagnes dans ton tournoi, tu le réinjectes.
Réinjecté immédiatement. Dans ta carrière. Et parfois, il était même juste négatif, en fait, la semaine. Parfois, tu peux faire monter ton classement, tu peux avoir fait demi-finale, j'ai fait monter mon classement de 40 places, mais je suis négative. En termes de budget.
Le sou, ouais.
Mais c'est pas grave, parce qu'on est tellement happé par ce système de classement et cette volonté de grimper dans les échelons que, moi en tout cas c'était mon cas, que je regardais même pas dans ces cas-là, c'était pas grave. Et moi, donc plus personnellement, j'ai vraiment mis toute ma débrouillardise au service de ce système, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait des photos, j'ai eu un contrat avec le coq sportif, marque pour laquelle je désignais mes vêtements. J'ai fait aussi une activité de consultante pour France Télévisions à l'époque. Et toutes ces activités-là, oui, ça allait à l'encontre de mon énergie dans le tennis, mais c'était pour pouvoir payer ma saison. Et à l'époque, c'était mal vu, parce qu'on me disait, c'était comme si j'étais pas concentrée et que je faisais plein d'autres choses, mais c'était pour pouvoir payer mon coach. Et...
Ah, c'était pour ça. Moi, je croyais vraiment que c'était parce que tu avais besoin aussi d'aller...
Bah, un peu des deux, je pense, inconsciemment. Mais en réalité, oui. C'est-à-dire que si j'avais pas fait tout ça, j'aurais sûrement... Je sais pas comment j'aurais fait. Il aurait fallu que je demande à mes parents, mais à un moment donné, quand t'as 25 ans, 26, 27, t'as plus envie de demander à tes parents de l'argent. Parce que après, en plus, c'est une culpabilité immense aussi de dépenser de l'argent de tes parents. Et quand tu ne performes pas et tu perds au premier tour, si tu sais que t'as dépensé les 3000 euros de tes parents, c'est horrible. Sauf s'ils sont extrêmement riches, mais voilà. Enfin, je sais pas. Et alors, j'en sais rien d'ailleurs. Peut-être que tu culpabilises pareil s'ils sont extrêmement riches, mais bon. Voilà.
Je sais pas. Après, je crois que c'est un peu ton propre rapport à l'argent.
Exactement,
aussi,
bien sûr.
Ok. Il y avait autre chose aussi dont je voulais te parler. C'est à quel point, et d'ailleurs ça tu l'expliques très bien, mais et moi je m'en rendais pas compte parce que je suis noob du tennis.
Ça veut dire quoi, noob? Ah oui, ok, j'ai compris du coup.
Je connais pas trop le système. Mais en fait, tu disais que tu pouvais. Le sport est un tennis où tu perds.
Ouais, chaque semaine.
Chaque semaine. Chaque semaine, tu perds. Et tu l'expliques aussi, c'est-à-dire que, en gros, les numéros 1 mondiaux, ils finissent toujours par perdre plus de tournois qu'ils en gagnent, quoi, forcément.
Alors, pas forcément, pas forcément. Je pense que ça dépend des saisons, mais au moment où j'ai écrit le livre, c'était parfait, parce que j'ai regardé les stats et les personnes qui étaient numéro 1 mondial, hommes, femmes, ils avaient, oui, peut-être gagné 5 tournois versus perdu 10. Donc c'était parfait pour mes stats. Après, je crois qu'il y a eu des phases où Novak Djokovic a gagné je sais pas combien de tournois, donc c'est arrivé. Mais c'est ça, c'était parfait pour mon point à ce moment-là et ce que je voulais montrer. C'est-à-dire que, ok, ils ont gagné plus de matchs, mais chaque semaine, c'est un échec cuisant quand même. Et là, on parle d'un échantillon. Ceux qui ont ceux dont on parle, qui peuvent avoir une balance à peu près équilibrée, ouais. C'est un échantillon infime. C'est numéro 1, numéro 2 mondial, c'est tout. Parce le reste, perdent chaque semaine.
Parce que toi, donc, t'es monté jusqu'au 135e rang, c'est ça ?
Oui, c'est ça, mondial.
Mondial. Et tu racontes qu'en fait, chaque défaite, c'est... Enfin, tu te flingues le ventre, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est...
Tu fais vomir, même, tu racontes, non ?
Ouais, c'est en fait, c'est... Je pense que c'est une souffrance physique tellement forte, parce que tu vois tout ce que t'as investi, et puis ça te met face à l'estime de toi, où tu te sens la plus nue de la terre, où tu te dis mais j'ai fait tout ça et j'y arrive pas, et je suis nulle, et puis l'échec, et ouais, c'est trop cuisant. Donc en fait, il y a plusieurs façons de réagir, et chacun réagit à sa façon, mais bon, globalement, on se comprend entre joueurs de tennis, comme je le disais tout à l'heure, on sait exactement ce que c'est. Et cette solitude dans la chambre d'hôtel après une défaite peut mener effectivement à moi, dans des moments où j'avais tellement envie de reporter la douleur interne en douleur externe que oui, c'était crise de boulimie. Je pense que c'est aussi se sentir tellement vide dans ces moments-là. Alors, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais que tu as besoin de te remplir d'autres choses parce que tu te sens un peu abandonné, tu te sens abandonné en fait du monde à ce moment-là. Enfin, ça va loin en fait. C'est, tu te sens tout seul. Dans une chambre d'hôtel, ça fait peut-être 4-5 semaines que t'as pas vu ta famille ou tes amis, et puis tu es seul face à cette défaite et cet échec qui te remet en cause toi et tes aptitudes, et peut-être tu vas plus loin, est-ce que tu es en tant que personne, et dans ces moments-là, oui, ça pouvait être, je vais me remplir et me faire mal derrière, me faire vomir pour passer le temps, parce qu'en fait, les heures sont longues, il est peut-être 19h, et puis il va falloir dormir, et en fait, j'avais que en tête les points de mon match que j'avais perdu.
Oui, c'est ça, tu et racontes ça que tu refais le match 42
fois. Mais c'est ça, je tiens à préciser que ce n'est pas que Zèbre.
Oui.
C'est joueur de tennis. Mmh. Pas tout le monde, mais beaucoup. Enfin, je ne peux pas parler en nom de tout le monde, mais toutes mes copines, c'est pareil. En tout cas, toutes celles dont je suis proche et avec qui j'ai pu en parler de façon approfondie, c'est pareil.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu pareil dans plein de sports, mais... Ouais, ceci dit, le tennis, il y a un côté un peu individuel.
Sport co, c'est différent. Ouais. Après, il y a des sports individuels qui ont... C'est pas chaque semaine non plus. C'est pas de ta poche, t'es salarié. Je sais pas s'il y a d'autres sports où c'est comme ça. Toi et toi-même et ton argent et chaque semaine. Je sais pas. J'en ai pas là qui me vient à l'esprit.
T'as une idée de combien t'as investi dans ta carrière
Non, mais franchement, ça doit être énorme. Mais tu sais que là, sur Internet, si tu regardes, mon prize money, il y a écrit 500 000 euros.
Mais que t'as gagné en gros sur ta carrière.
Voilà, sur ma carrière. Mmh. Mais il reste rien de ça. Je pense que j'ai investi beaucoup plus que ça. C'est sûr même. Non, c'est un truc de fou.
Mais pourquoi alors, au final?
Mais moi, tu veux m'envoyer en dépression ?
Non, mais sérieux, c'est une vraie question aussi.
Mais c'est une addiction, je ne sais pas te l'expliquer, et je pense que tous les joueurs de tennis le ressentent, même ceux qui détestent le tennis et qui n'ont pas fait ça par choix. Alors moi, j'ai fait ça par choix et par plaisir, mais il y en a qui ont été envoyés là par leurs parents, et en fait, c'est une addiction, c'est-à-dire que chaque semaine, il y a des tournois, donc c'est pas grave, finalement, tu trouves toujours le moyen de rebondir et te dire, bon, vas-y, peut-être la semaine prochaine, ce sera moi, parce que chaque semaine, il y a des vainqueurs différents. Et que tu as toujours cette image de la gloire dans ta tête et d'une issue heureuse, de la lumière, et la lumière sera un meilleur classement, ce sera mieux. Et puis, mais en fait, c'est un mirage. Parce qu'en fait, tu l'attrapes peut-être une demi-seconde, mais ça s'évanouit tout aussi vite. Parce que la semaine d'après, tout est remis en jeu à nouveau. Donc voilà, je pense que c'est la passion du jeu, l'amour du jeu.
Tu crois que t'es un peu addict
Ah mais c'est sûr.
Si tu vas à Las Vegas, là, il y a moyen que tu crames
Ah non, je suis pas du tout addict à ça, parce que j'aime pas du tout.
C'est une façon comme une autre
Ah non, j'ai joué une fois, ça m'intéresse pas du tout.
Okay.
Mais en tout cas, au tennis, oui, tout à fait. Bien sûr, à la compétition et à ce circuit, en fait, qui fait que t'es embringué dans une roue qui ne s'arrête jamais et tu peux pas en sortir, c'est trop dur.
Comment t'as fait pour lever le pied alors ?
Parce que là, j'ai même pas spécialement le pied. Je vais te faire une autre confidence.
C'est-à-dire
que je suis allée à Roland-Garros dimanche, premier jour de match. Et je me suis entraînée. J'étais incroyable. Non mais c'est toute la vie, c'est pas possible, c'est trop bien. Mais ça, rien d'autre n'a de sens. Je regarde ensuite le match d'un copain. Et en fait, j'étais là, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis sortie du court à un moment donné pour aller aux toilettes à la fin du premier set. Et j'ai pris mon téléphone et je me suis inscrite à des tournois.
C'est vrai.
J'étais là, je peux pas, il faut que je rejoue, ça me manque trop, c'est incroyable, il n'y a rien de plus beau sur Terre.
Alors que tu racontes que
ouais,
ça
c'est faux, hein.
Te déchire le ventre.
C'est ça, et j'écris à mon coach et je lui dis j'ai trop envie, et il me dit oui mais il n'y a rien qui va changer, et je lui dis ouais je sais, j'ai envie mais j'ai peur de souffrir. Et c'est comme ça.
Est-ce que tu as la sensation au fond de toi que tu vas finir par apprendre? Non mais tu vois, à apprendre à encaisser la défaite par exemple, tu vois.
Non, je pense pas, je pense que ce sera toujours pareil, je pense qu'il a raison mon coach là-dessus. Non, ce sera toujours pareil, la seule chose que je peux faire, je lui ai dit, peut-être des combines, je lui ai dit, ou alors il faudrait que bam, le lendemain je file tout de suite à mon cours d'acting pour penser que, me rappeler qu'il n'y a pas que ça dans la vie, je sais pas.
Oui, parce que tu racontes effectivement que t'as consacré toute ta vie au tennis, enfin jusqu'à il y a peu de temps, et que tu te rends compte aussi à un moment donné, peut-être grâce à la thérapie, qu'il y a d'autres choses dans la life, quoi.
Ben oui, c'est ça. Il y a d'autres choses dans la vie. C'est ce que m'a dit Jeanne. Il y a d'autres choses dans la vie que j'adore expérimenter. Et je pense qu'elle a totalement raison et que ce serait dommage de s'en priver et de pouvoir aussi briller dans un domaine ou de se dire qu'il y a des domaines dans lesquels cet esprit foisonnant va être positif. Et va pouvoir permettre de la créativité et donc ne serait-ce qu'écrire mon livre. Tu vois, quand j'écrivais mon livre, j'étais transcendée parfois pendant 8 heures d'affilée et je voyais les mots sauter dans la tête et puis j'adorais faire cette petite composition musicale presque. C'était génial. Et j'avais l'impression que dans ce cas-là, mon arborescence des pensées, elle était au service de quelque chose et que j'étais pas en train d'essayer de la bloquer. Donc c'était très agréable. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi te dire le tennis comme ça, c'est tellement de shots d'adrénaline que c'est difficile de ne pas y retourner.
Waouh. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un côté... C'est tout ce que tu as fait de ta vie, sans pour autant dire que tu as... Mais c'est globalement ce que tu sais faire, quoi. Tu as travaillé tellement d'heures pour faire ça.
Oui, mais je veux dire, tu vois, aujourd'hui, j'ai une émission... deux émissions avec France Télévisions. De web-série, je fais de l'acting, je viens de rentrer chez Adéquat, donc tout va bien, j'ai sorti un livre, j'ai quand même expérimenté d'autres choses. Je veux pas spoiler.
Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait on va parler de tout ça, mais j'ai un peu l'impression que ça reste ta zone de confort, en fait, le tennis.
Non, justement, c'est ma zone d'inconfort. Mais non, parce que regarde, j'ai l'impression que c'est facile.
Combien d'heures d'entraînement dans ta vie?
Mais oui, mais pourtant c'est le truc le plus difficile pour moi, toujours aujourd'hui. Et moi j'ai l'impression que quand je vais faire ma web-série, que je vais tourner mes épisodes, je surfe. Quand je vais faire mes interviews, je surfe. Je me jette pas des fleurs en disant que je suis la meilleure de la Terre et que je suis très forte à ça. C'est juste que je ressens pas le challenge aussi grand. J'ai l'impression que je peux m'appuyer sur mes qualités, que c'est du plaisir, c'est que du plaisir et que voilà, c'est sympathique, c'est génial, je suis trop contente. Mais ça va pas, je vais pas avoir les mêmes obstacles qu'au tennis.
Okay.
Alors, l'écriture, par contre, sincèrement, c'était très difficile.
Ouais.
Je me suis sentie dans mon élément, comme un poisson dans l'eau, et que j'étais, j'étais pas complètement à côté de la plaque de vouloir écrire ça, mais c'était très difficile. C'était un gros challenge. Mais sinon, le tennis reste toujours la plus grande des montagnes pour moi.
Ah, c'est parce que t'as toujours envie de graver. En fait, mon point, c'est qu'est-ce qui fait que t'es toujours accro aujourd'hui ?
C'est
les places ?
Non, même plus, tu vois, parce que c'est ce que je dis dans mon livre. C'est même plus ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est juste là, à un instant T, quand je regardais mon copain jouer, d'être là, en train de faire rebondir la balle et de ressentir ce silence des gens qui te regardent et cette torture interne de se dire je sers où, je sers là, de faire des échecs dans ta tête et de te dire bon, j'y vais là, d'avoir le bras qui tremble et de te dire non, il faut pas que mon bras tremble, alors pense à ci, pense à ça, il faut que ta balle, tu la jettes comme ça. Et tout ça, c'est un concentré de tellement de choses qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Et tu vois, je parle à des copines qui ont arrêté depuis 5-10 ans et qui ont fait plein d'autres choses aussi. Et en fait, on se le dit, on se dit, ben non, mais il n'y aura rien qui fera qu'on pourra. Ça ne pourra plus nous manquer, ou il n'y aura plus cette déchirure interne, se dire, ce ne sera plus jamais moi sur le terrain, etc. Alors, parfois, on pousse encore le bouchon, on se dit, bon, peut-être qu'à 50 ans, il y a un espoir. Voilà.
Mais c'est le tennis ou c'est le sport qui te manque ? Je veux dire, tu ne pourrais pas te reconvertir dans un autre sport ?
C'est trop tard, je pense, je suis beaucoup trop vieille. Mais.
Je crois que t'as plein de qualités, en fait, tu vois, le tennis t'apporte plein de qualités en tant que sportif d'une manière générale.
Oui, non, mais je fais plein d'autres sports, ouais. Je fais plein d'autres sports au quotidien, j'adore ça, je joue au foot, je joue au basket, je skie, mais en loisir. Tu parles en termes de compétition, ouais. Si je faisais de la compétition dans le sport, ouais. Je sais pas, après je peux pas expérimenter de l'intérieur prétendre savoir ce qui se passe à l'intérieur de la tête d'un skieur avant de descendre, ou d'un pilote de Formule 1, ou d'un sport co. Je sais pas, je connais que le tennis, donc ça je peux pas savoir, et ça pour le coup je pourrais jamais le savoir. Mais j'ai quand même l'impression que le tennis est particulier, parce que t'es vraiment tout seul dans ton désert à chercher. C'est presque, moi je dirais plus, le tennis c'est quasiment un marathon, en fait, ou une traversée du désert à l'intérieur de toi. C'est vraiment le dépassement de soi, plus que de ce quoi, ce qu'on regarde à la télé, on a l'impression que c'est du beau jeu et que c'est ludique, mais au fond de soi c'est ça. C'est du dépassement de soi.
Si tu le dis, je te crois. J'ai jamais trop joué au tennis. C'est pas trop.
Parce que tu combats en fait tes démons en permanence. C'est la voix qui te dit je suis fatiguée, la voix qui te dit oh là là, mon coup droit aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours ces voix-là pour tout le monde. Et en fait, c'est toutes les voix de tout, et de la douleur physique, d'une blessure. Et c'est toujours trouver le moyen de passer au-dessus de tout ça.
Aujourd'hui, tu fais plein d'autres choses, comme tu le disais tout à l'heure, là. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers là, en fait ? Est-ce que tu crois que tu serais devenue comédienne si tu t'étais pas mise au tennis un jour ?
Oui, c'est possible. Je sais pas, sincèrement. Peut-être que si j'avais été enfermée dans un bureau jusqu'à 30 ans, j'aurais eu le même réveil, mais différent, en mode « Ah non, mais attends, je suis en train de passer à côté de ma vie, il faut que je fasse quelque chose qui me correspond plus, je peux pas être enfermée. » Donc c'est difficile à dire. Je pense sincèrement que oui, je l'aurais fait à un moment donné, parce que c'est des choses que j'ai rêvées petites et que j'avais écrites dans des petites notes dans mon téléphone. N'oublie pas tes rêves après le tennis, les rêves que tu as toujours eus dans ta vie. Que ça soit
ça
de.
Quand t'étais gamine ?
Non, je l'ai pas écrit quand j'étais gamine. Quand j'avais 27 ans, je me suis dit, okay. Attends, tes rêves de gamine, ne les oublie pas, parce que j'ai l'impression que là, le temps, il est entre parenthèses pour le tennis. Mais n'oublie pas ce que tu voulais accomplir dans ta vie. Mais c'était même pas accomplir, c'était vraiment de l'ordre du rêve. Mais je considère que le rêve est quelque chose qu'on peut poursuivre, comme je l'ai fait pour le tennis. Et donc j'avais écrit ça, j'avais écrit. Il y a le domaine de l'acting, il y a le domaine de l'écriture, j'ai envie d'écrire un livre et de dessiner des vêtements. Voilà, donc à un moment donné où je me suis dit ok, c'est Jeanne qui m'a poussée, et je me suis dit bon, c'était quoi sur cette liste, et voilà, j'ai juste méthodiquement à nouveau repris cette liste, et bon bah on fait comment, on passe par où.
Donc t'as designé une ligne de fringues, c'est ça de...
Alors ça c'était déjà fait avant d'avoir écrit ça, mais oui, je pense que j'avais envie de le refaire, ça. C'était un peu, bon, considère pas que comme tu l'as déjà fait, c'est bon, ouais, c'est ça.
Et donc ouais, comme tu disais, tu fais tu travailles pour France avec France Télé, c'est ça pour
Oui, alors pas que France Télé, j'ai plusieurs contrats médiatiques, oui. Je fais des interviews de joueurs, alors des entretiens. Alors c'est hyper intéressant parce que je fais exactement ce que tu es en train de faire avec moi là pour un média de tennis qui s'appelle Tennis Majors. Là, je commence une expérience avec Tennis Channel, donc des Américains, pour faire une sorte d'émission aussi. France Télévisions, une émission musicale et une émission pendant Roland-Garros, mais même pas de tennis en fait, c'est les coulisses de Roland-Garros, et puis ça peut vraiment parler de tout et n'importe quoi, tu vois. Hier, je me suis transformée en apicultrice pour aller voir les ruches de Roland-Garros, tu vois, donc c'est génial, c'est hyper varié.
Et ça te plaît?
Oui, ça me plaît beaucoup.
T'as l'impression d'y
retrouver? Ça me plaît beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est un complément de vie, tu vois.
Ah, on n'a pas parlé de ça. De ce fameux moment où t'as pas, où tu, pendant très très longtemps en fait, tu t'es jamais vraiment considérée comme joueuse de tennis.
Ouais, bah je pense que je fais pareil dans tout. Je peux pas m'autoproclamer journaliste ou animatrice, mais bon, je progresse quand même, donc j'ose le dire. Mais enfin, j'ose pas le dire, mais quand on me demande là pour les médias, on écrit quoi dans le bandeau, j'ai l'impression d'être une imposteur quand on écrit animatrice télé, n'importe quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est des hobbies en fait, tout ça. On m'a proposé de faire ça. Ah oui, je pense que je me sens capable de faire ça. Je peux aller animer votre truc ou me transformer en apicultrice. Il n'y a pas de problème. Mais que ce n'est pas un métier, en fait. Que c'est un hobby.
Mais c'était un peu pareil pour le tennis à l'époque.
Le tennis, je pense que c'est différent. Ce n'est pas parce que c'était un hobby. C'est parce que... Non, je me mettais des barrières et des règles. De me dire, tant que tu ne gagnes pas ta vie, tant que tu n'es pas dans les 100, tu n'as pas le droit de dire que tu es joueuse de tennis, tu n'es pas une joueuse de tennis digne de ce nom. C'était plus de l'auto-sabotage.
Dans les 100 premières, donc vraiment le top du top.
Oui, enfin alors quand je dis ça, ça pouvait être juste faire les grands chelems. Enfin voilà, chacun sa barrière. Je ne sais pas exactement quelle était ma barrière à chaque étape de ma vie, mais c'était plus pour cette raison-là. C'était plus je ne sais pas me prendre au sérieux, je suis timide, je ne fais pas partie de ce monde, je n'ai pas encore ma place et je me faisais un petit peu toute petite. Je ne me sentais pas légitime de m'auto-proclamer joueuse de tennis. Parce qu'à quel moment, en fait, t'es joueuse de tennis? Parce que t'as fait des tournois? Parce que tu gagnes ta vie? Parce que ça fait 5 ans que tu fais ça? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le classement? Est-ce que c'est l'argent? Je sais pas.
C'est toi qui décides, non?
C'est toi qui décides, exactement. Donc moi, j'ai décidé plus tard. Voilà.
J'ai un très bon pote qui est auteur, qui a écrit des blagues, notamment. Il s'appelle Navo, et c'est lui qui a écrit Bref. En fait, il dit un truc, il dit, en fait, faut pas que t'attendes des autres qui te proclament, ou en tout cas qui disent de toi que t'es auteur. Faut juste que tu dises à un moment donné que t'es auteur et que t'écris, en fait.
C'est ça. Et moi, en fait, là où je pouvais le voir, c'était quand je passais la douane. Par exemple, aux États-Unis, t'arrives, ou enfin dans notre pays, et ils disent « métier, deux points ». Et en fait, j'écrivais « étudiante ». Et au bout d'un moment, en fait, je crois que je me sentais trop vieille pour être étudiante. Et je me disais « non, là, je suis vraiment une ratée de la vie quand même. Là, je suis encore en train de... » Alors que pas du tout, je considère qu'on peut étudier à n'importe quel âge. Ouais. Mais je me disais « oh là là, non, peut-être que là, maintenant, je suis quand même plus étudiante. Là, là on dirait que j'ai redoublé beaucoup, beaucoup de classes. »
Oui, parce que surtout, t'y allais pour jouer des tournois professionnels.
Bien sûr, j'y allais pour jouer des tournois professionnels, mais à la douane, j'écrivais « étudiante ». C'est fou.
Et tu refais la même chose aujourd'hui?
Alors, qu'est-ce que j'écris? Alors non, maintenant, oui. C'est-à-dire, je fais la même chose dans le sens où j'écris... Je pense que jusqu'à mes 40 ans, je vais écrire joueuse de tennis.
C'est vrai.
Oui, j'arrive pas à lâcher maintenant, c'est l'inverse. Je suis très attachée maintenant. C'est à qui j'ai mis tant de temps à...
Oui, je comprends.
Attendre.
D'un autre côté... D'où l'inscription encore sur... Tu vas t'inscrire à...
Non,
sur
je
des,
pense qu'il y a un, des, ouais, y a un côté... être dans des cases, tu vois. Dans des cases... aux yeux des gens et de pas vouloir choquer en fait. Et que c'est peut-être plus confortable pour moi aujourd'hui de dire je joue au tennis, parce que si tu googles, oui, je suis joueuse de tennis et j'ai pas envie d'écrire comédienne parce que je me sens pas encore légitime ou autre. Et je me sens, ça va être sûrement la même chose pendant longtemps.
Dans une agence.
Oui, mais bon, c'est voilà, quand est-ce que tu considères que t'es comédienne? C'est la même chose. Est-ce que t'es juste dans une agence? Est-ce que t'as tourné une série? Est-ce que t'as tourné 10 films? C'est pareil, tu vois, c'est chacun sa propre barrière, son propre curseur, on va dire. Voilà.
Mais déjà, en fait, si t'as une agence qui t'a dit « vas-y, viens dans notre agence », ça veut dire déjà qu'ils considèrent que...
En fait, je sais pas, j'ai presque l'impression que je pouvais pas dire « je joue au tennis » tant que j'avais pas assez de choses à raconter, peut-être aussi. Tu vois, parce que je venais de commencer. Et
comment
que...
ça?
Bah, je sais pas, j'avais peut-être pas gagné assez de matchs, j'avais pas assez d'expérience, j'en sais rien, tu vois. Peut-être que je voudrais bien dire que je suis comédienne quand j'aurais fait assez de films pour dire « ok, j'ai eu une vraie expérience de comédienne », tu vois. Alors du coup, je le prends à la fin, tu vois. Bon bref, tu m'as dit que j'étais zinzin, alors j'ai le droit de dire, j'ai le droit de montrer que je suis zinzin.
Ah oui, j'aime beaucoup ça, cet aspect-là de ta personnalité. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la petite Alizée,
Ah,
est-ce okay, que t'es...
Je pensais que t'allais me dire à quelqu'un qui a tel âge et qui est au potentiel ou qui veut jouer au tennis, je me dis, oh là là, mon Dieu.
Qu'est-ce que t'as envie de dire à la petite Alizée aujourd'hui qui se met au tennis et...
Je sais pas, sincèrement, je sais pas parce que tu sais pourquoi je peux te dire que je sais pas parce que je me suis déjà imaginé savoir ce que je vais dire à ma fille peut-être si elle veut jouer au tennis et je ne saurais pas, tu vois. Mais je pense que je lui dirais de faire ce que j'ai fait, de poursuivre ce que t'as envie de faire, coûte que coûte, vas-y à fond et puis je regrette pas, tu vois, je regrette rien, donc je peux que m'encourager comme mes parents à faire ce que j'ai envie de faire.
Le cerveau, il est pas vraiment fait pour les regrets, je crois.
Je suis contente de ne pas avoir de regrets parce que quand je vois déjà tout ce que j'ai accepté comme mauvais sentiments et comme culpabilité dans d'autres situations, heureusement que j'ai pas ça en plus.
Putain. Merci beaucoup Alizée.
Merci à toi.
C'était vraiment très cool.
Tant mieux.
Puis allez donc, je vous mettrai le lien pour aller acheter le bouquin d'Alizée. Avec grand plaisir.
Merci à toi, c'était un super moment.
Et puis, on peut aller te suivre aussi sur Instagram. Tu mets régulièrement des trucs de ta vie, quoi, tu vois, si vous voulez aller suivre.
Oui, oui. C'est tout un rapport Instagram aussi.
Ah, vas-y, raconte si tu veux, on peut en parler.
Non, c'est difficile de savoir où est la limite. De dire, je pense qu'en fait, jusqu'à la sortie de mon bouquin, j'avais rien envie de montrer de moi. Et d'avoir une façade, tu vois. Et de donner la façade qu'on attend de toi. Et là, je pense que j'ai l'impression que je dois un peu plus, d'une certaine façon, un peu plus de vérité ou d'honnêteté.
Tu dois.
D'authenticité. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, tu vas pas faire genre. T'es quelqu'un d'autre alors tu viens de tout dire dans ton livre, tu vois ce que je veux dire?
Ah oui, ok, c'est intéressant.
Voilà.
Et ça va, tu t'en sors? C'est
oui je m'en sors.
Non, mais tu vois, par rapport à cette à ta toi qui vraiment aimait bien segmenter, tu vois, entre ta vie au lycée et ta vie de tennis, là j'imagine qu'il doit y avoir un peu de ça aussi, non?
Oui, mais en fait j'ai plus le choix. Je me dis, là en vrai j'aurais posté ça, mais là non tu peux pas. Tu peux pas parce que là, c'est faire semblant que faire semblant de choses, mais tu peux plus maintenant. Il faut que être honnête.
Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que t'aurais posté?
J'aurais fait du remplissage. J'aurais mis une photo de moi qui ne veut rien dire et qui ne montre rien de où je suis, de qui je suis. Et j'aurais mis une caption qui vide, un peu rigolote, mais qui sert à rien du tout. Et en fait, je peux pas, quoi. Enfin, je me dis que je peux pas. En tout cas, je me le dois à moi.
Ah, c'est
je
cool.
sais pas, voilà. Tu vois, je me dis qu'au moins maintenant, si je partage, je vais partager quelque chose de vrai, de que je suis en train de vivre et d'expliquer aux gens et de voilà, d'être un peu plus profonde, on va dire. Je sais pas si on peut employer ce mot, mais...
Si, on peut.
Voilà. Voilà.
Merci à toi, Alizée.
Merci.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.